Eh bien, où prendras-tu donc tes 300 000 francs ? Dit madame Birotteau. Tu n'entends rien aux affaires, ma chatte aimée. Je donnerai les 100 000 francs qui sont chez Roguin. J'emprunterai 40 000 francs sur les bâtiments et les jardins où son nom fabrique dans le faubourg du Temple. Nous avons 20 000 francs en portefeuille, en tout 160 000 francs. Reste 140 000 autres pour lesquels je souscrirai des effets à l'ordre de monsieur Charles Claparon, banquier. Il en donnera la valeur moins l'escompte. Voilà nos 100 000 écus payés, qui à terme ne doit rien. Quand les effets arriveront à échéance, nous les acquitterons avec nos gains. Si nous ne pouvions plus les solder, Roguin me remettrait des fonds à 5%, hypothéqués sur ma part de terrain. Mais les emprunts seront inutiles. J'ai découvert une essence pour faire pousser les cheveux, une huile comagène. Livingstone m'a posé là-bas une presse hydraulique pour fabriquer mon huile avec des noisettes qui, sous cette forte pression, rendront aussitôt toute leur huile. Dans un an, suivant mes probabilités, j'aurai gagné 100 000 francs au moins. Je médite une affiche qui commencera par « À bas les perruques », dont l'effet sera prodigieux. Tu ne t'aperçois pas de mes insomnies, toi. Voilà 3 mois que le succès de l'huile de Macassar m'empêche de dormir. Je veux couler Macassar. Voilà donc les beaux projets que tu roules dans ta caboche depuis 2 mois, sans vouloir m'en rien dire. Je viens de me voir mendiante, à ma propre porte. Quelle avis du ciel! Dans quelque temps, il ne nous restera que les yeux pour pleurer. Jamais tu ne feras ça, moi vivante. Entends-tu, César? Il se trouve là-dessous quelques manigances que tu n'aperçois pas. Tu es trop probe et trop loyale pour soupçonner les friponneries chez les autres. Pourquoi vient-on t'offrir des millions? Tu te dépouilles de toutes tes valeurs, tu t'avances au-delà de tes moyens. Et si ton huile ne prend pas? Si l'on ne trouve pas l'argent? Si la valeur des terrains ne se réalise pas? Avec quoi paieras-tu tes billets? Est-ce avec les coques de tes noisettes? Pour te placer plus haut dans la société, tu ne veux plus être en nom, tu veux ôter l'enseigne de la Reine des Roses, et tu vas faire encore tes salamalecs d'affiches et de prospectus qui montreront César Birotteau au coin de toutes les bornes et au-dessus de toutes les planches, aux endroits où l'on bâtit. Oh, tu n'y es pas. J'aurai une succursale sous le nom de Popineau, dans quelques maisons autour de la rue des Lombards, où je mettrai le petit Anselme. J'acquitterai ainsi la dette de la reconnaissance envers monsieur et madame Ragon, en établissant leur neveu qui pourra faire fortune. Ces pauvres Ragonins m'ont l'air d'avoir été bien grêlés depuis quelque temps. Tiens, ces gens-là veulent ton argent. Mais quels gens donc, ma belle? Est-ce ton petit oncle Pierrot qui nous aime comme ses petits boyaux et dîne avec nous tous les dimanches? Est-ce ce bon vieux Ragon, notre prédécesseur, qui voit 40 ans de probité devant lui, avec qui nous faisons notre boston? Enfin, serait-ce Roguin, un notaire de Paris, un homme de 57 ans, qui a 25 ans de notariat? Un notaire de Paris, ce serait la fleur des pois, si les honnêtes gens ne valaient pas tous le même prix. Au besoin, mes associés m'aideraient. Où donc est le complot, ma biche blanche? Tiens, il faut que je te dise ton fait. Foi d'honnête homme, je l'ai sur le cœur. Tu as toujours été défiante comme une chatte. Aussitôt que nous avons eu pour 2 sous à nous dans la boutique, tu croyais que les chalands étaient des voleurs. Il faut se mettre à tes genoux afin de te supplier de te laisser enrichir. Pour une fille de Paris, tu n'as guère d'ambition. Sans tes craintes perpétuelles, il n'y aurait pas eu d'homme plus heureux que moi. Si je t'avais écouté, je n'aurais jamais fait ni la pâte des sultanes, ni l'eau carminative. Notre boutique nous a fait vivre, mais ces 2 découvertes et nos savons nous ont donné les 160 000 francs que nous possédons clair et net. Sans mon génie, car j'ai du talent comme parfumeur, nous serions de petits détaillants. Nous tirerions le diable par la queue pour joindre les 2 bouts, et je ne serais pas un des notables négociants qui concourent à l'élection des juges au tribunal de commerce. Je n'aurais été ni juge, ni adjoint. Sais-tu ce que je serais? Un boutiquier, comme a été le père Ragon. Soit dit sans l'offenser, car je respecte les boutiques. Le plus beau de notre nez, en effet. Après avoir vendu de la parfumerie pendant 40 ans, nous posséderions comme lui 3 000 livres de rente, et au prix où sont les choses dont la valeur a doublé, nous aurions comme eux à peine de quoi vivre. De jour en jour, ce vieux ménage-là me serre le cœur davantage. Il faudra que j'y voie clair, et je saurai le fin mot par Popineau demain. Si j'avais suivi tes conseils, toi qui as le bonheur inquiet et qui te demande si tu auras demain ce que tu tiens aujourd'hui, je n'aurais pas de crédit, je n'aurais pas la croix de la Légion d'honneur et je ne serais pas en passe d'être un homme politique. Oui, tu as beau branler la tête, si notre affaire se réalise, je puis devenir député de Paris. Ah, je ne me nomme pas César, pour rien tout m'a réussi. C'est inimaginable, au dehors chacun m'accorde de la capacité, mais ici, La seule personne à laquelle je veux tant plaire que je suis sang et eau pour la rendre heureuse est précisément celle qui me prend pour une bête. » Ces phrases, quoique scindées par des repos éloquents et lancées comme des balles, ainsi que font tous ceux qui se posent dans une attitude récriminatoire, exprimaient un attachement si profond, si soutenu, que Madame Birotteau fut intérieurement attendrie. Mais elle se servit, comme toutes les femmes, de l'amour qu'elle inspirait pour avoir gain de cause. « Eh bien, Birotteau, dit-elle, si tu m'aimes, laisse-moi donc être heureuse à mon goût. Ni toi ni moi nous n'avons reçu d'éducation, nous ne savons point parler, ni faire un serviteur à la manière des gens du monde. Comment veut-on que nous réussissions dans les places du gouvernement? Je serai heureuse aux trésorières, moi. J'ai toujours aimé les bêtes et les petits oiseaux. Je passerai très bien ma vie à prendre soin des poulets, à faire la fermière. Vendons notre fonds. Marions Césarine et laisse ton Imogène. Nous viendrons passer les hivers à Paris chez notre gendre. Nous serons heureux, rien, ni dans la politique, ni le commerce, ne pourra changer notre manière d'être. Pourquoi vouloir écraser les autres? Notre fortune actuelle ne nous suffit-elle pas? Quand tu seras millionnaire, dîneras-tu deux fois? As-tu besoin d'une autre femme que moi? Vois mon oncle Pierrot, il s'est sagement contenté de son petit avoir et sa vie s'emploie de bonnes œuvres. A-t-il besoin de beaux meubles, lui? Je suis sûre que tu m'as commandé le mobilier. J'ai vu venir Brachon ici. Ce n'était pas pour acheter de la parfumerie. Eh bien, oui, ma belle, tes meubles sont ordonnés. Nos travaux vont être commencés demain et dirigés par un architecte que m'a recommandé Monsieur de la Billardière. Mon Dieu, s'écria-t-elle, ayez pitié de nous. Mais tu n'es pas raisonnable, ma biche. Est-ce à 37 ans, fraîche et jolie comme tu l'es, que tu peux aller t'enterrer à Chinon? Moi, Dieu merci, je n'ai que 39 ans. Le hasard m'ouvre une belle carrière, j'y entre. En m'y conduisant avec prudence, je puis faire une maison honorable dans la bourgeoisie de Paris, comme cela se pratiquait jadis. Fonder les Birotteaux, comme il y a des Keller, des Jules Desmarais, des Roguin, des Cochin, des Guillaume, des Lebas, des Nucingen, des Saillard, des Popineau, des Matifat, qui marquent ou qui ont marqué dans leur quartier. Allons donc, si cette affaire-là n'était pas sûre comme de l'or en barre. Sûre. Oui, sûre. Voilà 2 mois que je la chiffre. Sans en avoir l'air, je prends des informations sur les constructions, au bureau de la ville, chez des architectes et chez des entrepreneurs. Monsieur Rouault, le jeune architecte qui va remanier notre appartement, est désespéré de ne pas avoir d'argent pour se mettre dans notre spéculation. Il y aura des constructions à faire. Il vous y pousse pour vous gruger. Peut-on attraper des gens comme Pierrot, comme Charles Claparon et Roguin? Le gain est sûr comme celui de la pâte des sultanes, vois-tu? Mais, mon cher ami, qu'a donc besoin Roguin de spéculer s'il a sa charge payée et sa fortune faite? Je le vois quelquefois passer plus soucieux qu'un ministre d'État. Avec un regard en dessous que je n'aime pas, il cache des soucis. Sa figure est devenue depuis 5 ans celle d'un vieux débauché. Qui te dit qu'il ne lèvera pas le pied quand il aura vos fonds en main? Cela s'est vu. Le connaissons-nous bien? Il a beau depuis 15 ans être notre ami, je ne mettrai pas ma main au feu pour lui. Tiens, il est punais et ne vit pas avec sa femme. Il doit avoir des maîtresses qu'il paie et qui le ruinent. Je ne trouve pas d'autre cause à sa tristesse. Quand je fais ma toilette, je regarde à travers les persiennes. Je le vois rentrer à pied chez lui le matin. Revenant d'où? Personne ne le sait. Il me fait l'effet d'un homme qui a un ménage en ville, qui dépense de son côté, madame du sien. Est-ce la vie d'un notaire? S'il gagne 50 000 francs et qu'ils en mangent 60, en 20 ans on voit la fin de sa fortune. On se trouve nus comme des petits Saint-Jean, mais comme on s'est habitué à briller, on dévalise ses amis sans pitié. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est intime avec ce petit gueux de Du Tillet, notre ancien commis. Je ne vois rien de bon dans cette amitié. S'il n'a pas su juger Du Tillet, il est bien aveugle. S'il le connaît, pourquoi le choisit-il tant? Tu me diras que sa femme aime Du Tillet. Eh bien, je n'attends rien de bon d'un homme qui n'a pas d'honneur à l'égard de sa femme. Enfin, les possesseurs actuels de ces terrains sont donc bien bêtes de donner pour 100 sous ce qui vaut 100 francs. Si tu rencontrais un enfant qui ne sut pas ce que vaut un louis, ne lui en dirais-tu pas la valeur? Votre affaire me fait l'effet d'un vol à moi, soit dit sans t'offenser. Mon Dieu, que les femmes sont quelquefois drôles et comme elles brouillent toutes les idées! Si Roguin n'était rien dans l'affaire, tu me dirais « Tiens, tiens, César, tu fais une affaire où Roguin n'est pas, elle ne vaut rien. À 7 heures, il est là comme une garantie et tu me dis « Non, c'est un monsieur Claparon. » Mais un notaire ne peut pas être en nom dans une spéculation. Pourquoi fait-il alors une chose que lui interdit la loi ? Que me répondras-tu, toi, qui ne connais que la loi ? Laisse-moi donc continuer. Roguin s'y met, et tu me dis que l'affaire ne vaut rien ? Est-ce raisonnable ? Tu me dis encore, il fait une chose contre la loi. Mais il s'y mettra ostensiblement s'il le faut. Tu me dis maintenant, il est riche. Ne peut-on pas m'en dire autant à moi ? Ragon et Pyrrho seraient-ils bienvenus à me dire « Pourquoi faites-vous cette affaire, vous qui avez de l'argent comme un marchand de cochons ?»« Les commerçants ne sont pas dans la position des notaires, » dit Madame Birotteau. « Enfin, ma conscience est bien intacte, » dit César en continuant. « Les gens qui vendent, vendent par nécessité. Nous ne les volons pas plus qu'on ne vole ceux à qui on achète des rentes à 75. Aujourd'hui, nous acquérons les terrains à leur prix d'aujourd'hui. Dans 2 ans, ce sera différent, comme pour les rentes. » Sachez, Constance Barbe Joséphine Pyrrho, que vous ne prendrez jamais César Birotteau à faire une action qui soit contre la plus rigide probité, ni contre la loi, ni contre la conscience, ni contre la délicatesse. Un homme établi depuis 18 ans, être soupçonné d'improbité dans son ménage. Allons, calme-toi, César. Une femme qui vit avec toi depuis ce temps connaît le fond de ton âme. Tu es le maître après tout. Cette fortune, tu l'as gagnée, n'est-ce pas ? Elle est à toi. Tu peux la dépenser. Nous serions réduites à la dernière misère. Ni moi ni ta fille ne te ferions un seul reproche. Mais écoute, quand tu inventais ta pâte des sultanes et ton eau carminative, que risquais-tu ? Des 5 à 6 000 francs. Aujourd'hui, tu mets toute ta fortune sur un coup de carte. Tu n'es pas seul à le jouer, tu as des associés qui peuvent se montrer plus fins que toi. Donne ton bal, renouvelle ton appartement, fais 10 000 francs de dépenses. C'est inutile, mais ce n'est pas ruineux. Quant à ton affaire de la Madeleine, je m'y oppose formellement. Tu es parfumeur, sois parfumeur, et non pas revendeur de terrain. Nous avons un instinct qui ne nous trompe pas, nous autres femmes. Je t'ai prévenu, maintenant, agis à ta tête. Tu as été juge au tribunal de commerce, tu connais les lois, tu as bien mené ta barque, je te suivrai, César. Mais je tremblerai, jusqu'à ce que je voie notre fortune solidement assise, et Césarine bien mariée. Dieu veuille que mon rêve ne soit pas une prophétie. » Cette soumission contraria Birotteau, qui employa l'innocente ruse à laquelle il avait recours en semblable occasion. « Écoute, Constance, je n'ai pas encore donné ma parole, mais c'est tout comme. »« Oh, César, tout est dit, n'en parlons plus. L'honneur passe avant la fortune. Allons, couche-toi, mon cher ami. Nous n'avons plus de bois. D'ailleurs, nous serons toujours mieux au lit pour causer si cela t'amuse. » Oh, le vilain rêve! Mon Dieu! Se voir soi-même! Mais c'est affreux! Césarine et moi, nous allons joliment faire des neuvaines pour le succès de tes terrains. Sans doute l'aide de Dieu ne nuit à rien, dit gravement Birotteau. Mais l'essence de noisette est aussi une puissance, ma femme. J'ai fait cette découverte comme autrefois celle de la double pâte des sultanes. Par hasard! La première fois en ouvrant un livre, cette fois en regardant la gravure d'Héro et Léandre. Tu sais? Une femme qui verse de l'huile sur la tête de son amant, est-ce gentil ? Les spéculations les plus sûres sont celles qui reposent sur la vanité, sur l'amour-propre, l'envie de paraître. Ces sentiments-là ne meurent jamais. Hélas, je le vois bien. À un certain âge, les hommes feraient les 100 coups pour avoir des cheveux quand ils n'en ont pas. Depuis quelque temps, les coiffeurs me disent qu'ils ne vendent pas seulement le macassar, mais toutes les drogues bonnes à teindre les cheveux ou qui passent pour les faire pousser. Depuis la paix, les hommes sont bien plus auprès des femmes, et elles n'aiment pas les chauves. Hé hé, Mimi, la demande de cet article-là s'explique donc par la situation politique. Une composition qui vous entretiendrait les cheveux en bonne santé se vendrait comme du pain, d'autant que cette essence sera sans doute approuvée par l'Académie des sciences. Mon bon monsieur Vauquelin m'aidera peut-être encore. J'irai demain lui soumettre mon idée, en lui offrant la gravure que j'ai fini par trouver après 2 ans de recherche en Allemagne. Il s'occupe précisément de l'analyse des cheveux. Chiffreville, son associé pour sa fabrique de produits chimiques, me l'a dit. Si ma découverte s'accorde avec les siennes, mon essence serait achetée par les 2 sexes. Mon idée est une fortune, je le répète. Mon Dieu, je n'en dors pas. Eh, par bonheur, le petit Popinot a les plus beaux cheveux du monde. Avec une demoiselle de comptoir qui aurait des cheveux longs à tomber jusqu'à terre et qui dirait, si la chose est possible, sans offenser Dieu ni le prochain, que l'huile comagène, car ce sera décidément une huile, y est pour quelque chose, les têtes des grisons se jetteraient là-dessus comme la pauvreté sur le monde. Dis donc, mignonne, et ton bal ? Je ne suis pas méchant, mais je voudrais bien rencontrer ce petit drôle de Dutillet, qui fait le gros avec sa fortune et qui m'évite toujours à la bourse. Il sait que je connais un trait de lui qui n'est pas beau. Peut-être j'étais trop bon avec lui. Est-ce drôle, ma femme, qu'on soit toujours puni de ses bonnes actions, ici-bas, s'entend. Je me suis conduit comme un père envers lui. Tu ne sais pas tout ce que j'ai fait pour lui. Tu me donnes la chair de poule rien que de m'en parler. Si tu avais su ce qu'il voulait faire de toi, tu n'aurais pas gardé le secret sur le vol des 3 000 francs, car j'ai deviné la manière dont l'affaire s'est arrangée. Si tu l'avais envoyé en police correctionnelle, peut-être aurais-tu rendu service à bien du monde. Que prétendait-il donc faire de moi? Rien. Si tu étais en train de m'écouter ce soir, je te donnerais un bon conseil, Birotteau. Ce serait de laisser ton Du Tillet. Ne trouverait-on pas extraordinaire de voir exclu de chez moi un commis que j'ai cautionné pour les premiers 20 000 francs avec lesquels il a commencé les affaires? Va, faisons le bien pour le bien. D'ailleurs, Du Tillet s'est peut-être amendé. Il faudra mettre tout sans dessus-dessous ici. Que dis-tu donc avec tel sans dessus-dessous? Mais tout sera rangé comme un papier de musique. Tu as donc déjà oublié ce que je viens de te dire relativement à l'escalier et à ma location dans la maison voisine que j'ai arrangée avec le marchand de parapluies qui est rond. Nous devons aller ensemble demain chez Monsieur Molineux, son propriétaire, car j'ai demain des affaires autant qu'en a un ministre. Oh, tu m'as tourné la cervelle avec tes projets, lui dit Constance. Je m'y brouille. D'ailleurs, Birotteau, je dors. Bonjour, répondit le mari. Écoute donc, je te dis bonjour parce que nous sommes au matin, Mimi. Ha, la voilà partie, cette chère enfant. Va, tu seras richissime ou je perdrai mon nom de César. Quelques instants après, Constance et César ronflèrent paisiblement.